Nous allons continuer ce soir sur l'énigmatique posée par le corps, dans la mesure où, évidemment, le corps, en regard, je dirais pas du psychanalyste, c'est trop facile de le mettre d'emblée à cette dimension-là, en regard de l'inconscient et de la voix de l'inconscient, justement, n'est évidemment pas le corps tel qu'il est connu, reconnu, connaissance de la tel que l'aborde la médecine, mais aussi bien l'anatomopathologie, la physiologie, la psychologie, tel qu'on peut le voir. Il s'agit du voir. Le voir, tout ça, ça vient des lumières qui sont inaugurées en quelque sorte. Enfin, on peut dire ça par Descartes, début du XVIIe. Alors, qu'est-ce que le corps? En regard de l'être parlant, et non pas de l'être qui est... Pour autant que l'être parlant, c'est déjà un être parlé. Il est déjà le... Quand on dit l'être parlant, on s'avance déjà un peu trop parce que le participe présent peut être déjà questionné. Hein, si je dis l'être parlé, ça veut dire que on est déjà dans quelque chose qui est fait, qui est passé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il est possible d'avancer en regard du corps? Et là, je reviens à ce que je disais la dernière fois. Je prends comme appui l'enseignement de Lacan et ce qu'il a pu dire, ce qu'on n'entend pas beaucoup, hein, évidemment, et notamment vers les années 1970, dans ce quelque chose où il est interviewé par... au niveau de la phonie, justement, la phonie, ça s'appelle radiophonie. Il est interviewé, c'est pas télévision, hein. Télévision, ça viendra après. Télévision, c'est Jacques Alaminaire. C'est un peu plus tard. Au niveau de la phonie, et où il prête sa voix, mais c'est la voix telle qu'elle est connue, hein, habituellement, et où il répond à un certain nombre de questions. Les questions à ce moment-là, c'est qui lui sont posées, tout en sachant très bien qu'effectivement, il n'aime pas du tout ça, parce que dès qu'il se met à parler, évidemment, l'auditeur a quelques difficultés. Il répond à des questions sur la dimension de la structure, sur la dimension du langage, sur la dimension de l'articulation entre la psychanalyse et puis la linguistique, le structuralisme. Bon, il y a un certain nombre de questions, et notamment apparaît un moment dans justement ce qu'il en est des rapports qui pourraient exister entre la linguistique et la psychanalyse. Là, je me rectifie parce que la psychanalyse, ça ne va pas, et le discours analytique, pas pareil, est abordé à ce moment-là la question de, bien sûr, du réel, hein, du symbolique, de l'imaginaire, puisque c'est ça l'être parlant, c'est un composé, on ne peut même pas dire triple. C'est pas trois dimensions qui sont juxtaposées, hein. C'est ce qui fait ces trois dimensions, Ce qui les fait trois. Ce qui les fait trois, c'est compliqué. On sent déjà qu'il y a quelque chose là qu'on ne peut pas arriver à saisir. Hein. Je vais rappeler la dernière fois cette citation de Virgile, les bucoliques, reprise par Gide, dans Palude, numéro Deus, impare gaudet. Ou évidemment, si on, comme toute interprétation de cette langue dite morte, de latin, tout d'un coup peut jaillir sous l'effet de ce qu'on pourrait appeler la pulsion de mort, mais pas du tout tel qu'on en parle habituellement, au niveau de la pulsion, du pulsionnel, quelque chose qui sort du fait que a disparu le savoir de connaissance. Et donc, numéro Deus impare gaudet, on peut dire Dieu Deus. Gaudet se réjouit. Numéro du numéro deux, du chiffre, etc. On peut dire beaucoup de choses, hein. On peut dire que le numéro 2, numéro Deus, Gaudet se réjouit de l'impare, c'est-à-dire de l'impair. Et c'est comme ça que Gide traduit cette citation, cet écrit de Virgile, pour lui, hein, le numéro 2 se réjouit d'être impair. Mais l'être en question, ce que j'ai souligné la dernière fois, l'être là n'est pas l'être qui est, justement, qui reste. Hein. C'est l'être qui naît de l'étant, à écrire TNT ou TNG, comme on veut. De toute façon, ce n'est pas le problème. Il naît de la faille créée par la disparition du savoir, c'est ça la pulsion de mort. Parce que le discours analytique s'est articulé au langage, il est particulier à la phénoménologie, il est particulier à tout ce qu'on peut, tout le senti, le ressenti. Hein. Ça c'est la psychologie, qui va même être appelée psychologie des profondeurs, pourquoi pas, après tout. Hein. Mais l'inconscient n'est pas du tout dans les profondeurs. Il est là. Il attend d'être reconnu. Il est dans le langage. Voilà. C'est pour ça que l'important, c'est de parler. Ce soir, en voyant un petit garçon qui s'amusait, qui a beaucoup de mal avec le fait de parler, mais qui joue aussi bien avec une petite tablette, là, on voit bien qu'un enfant qui a des difficultés avec le langage est tout à fait à l'aise avec une tablette. Ça ne pose absolument aucun problème. Donc le langage est autre chose que, effectivement, un code qui fonctionne pour nommer quelque chose. Il y a quelque chose dans le langage, une richesse particulière pour qui peut, alors c'est ce qu'on disait la dernière fois, l'entendre. Et c'est comme ça qu'on revient, on va arriver à cette question du corps, et je prends appui, comme je le disais il y a quelques minutes, sur la façon dont Lacan est amené à balayer à grande vitesse, je vais dire, toutes les théories connues. En disant l'affect, évidemment, c'est pas du senti. Hein. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir du senti, mais c'est pas du senti, puisque le sentiment, hein, et la confusion des sentiments, tout le monde est passé par là, hein, tous, on sait ce que c'est ça. Hein. Eh bien, je vous ai marqué, c'est la deuxième citation, c'est incorporer que la structure fait l'affect. C'est un fer qui est lors de la création. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être incorporé du langage. Vous voyez que la langue est riche parce que incorporé, il y a bien sûr le mot corps, mais il ne suffit pas que ça soit incorporé pour que ça fasse corps, ça fasse du corps. Hein? L'idée c'est que, enfin l'idée, l'important c'est de ce qui fait trois. Ce qui fait trois. Il faut arriver à hanter, pas E-N, hein, H-A-N, à hanter le réel, l'insaisissable qui est le réel, qui est cette dimension du 3, mais qui est aussi la troisième dimension, mais qui, c'est toute l'ambiguïté des choses, hein, qui est cette dimension du 3 pour toucher à ça. Donc, une part du langage est incorporée, ça c'est l'énigme, hein, combien plus énigmatique que l'histoire des spermatozoïdes et des ovules qui vont pouvoir donner effectivement un être masculin ou féminin. Enfin, on ne sait pas ce qui fait que, on constate. Au niveau des chromosomes. Il y a quelque chose qui va pouvoir être incorporé, propre à chacun. Impossible de décider, indécidable, indémontrable. On peut le montrer, c'est-à-dire qu'on peut dire voilà ce que ça a donné, mais on ne peut pas le démontrer. Indémontrable. Puisque c'est insaisissable, et qui va faire la particularité de l'être parlant et du corps de l'être parlant. Corps. C'est pas le corps au sens habituel, même quand on dit qu'on est. Ça fait corps. Non, c'est encore de l'imaginaire, ça. De l'imaginaire, évidemment, hein, séparé des deux autres. Hein. Et puis, séparé, ça veut dire que ça peut être juxtaposé, mais la question de l'image et de l'imaginaire, c'est-à-dire de la connaissance, c'est quelque chose qui permet de penser, qui permet de représenter, hein. C'est que si il y a cette porte étroite du réel qui est touchée, alors le réel, le symbolique et l'imaginaire sont en quelque sorte, on va dire remaniés, mais c'est même pas ça, sont noués, c'est ça l'enseignement d'accord, hein, l'œuvre roméen, sont noués de telle façon que quelque chose de nouveau advient. L'affect est dans cette dimension-là. Affecté. Affecté par le réel. Et puis, en haut, j'ai mis une citation un peu plus développée, qu'on a déjà, le corps. Alors, la citation exacte, c'est « Le corps à le prendre au sérieux, le corps. » Il parle dans ce... Et d'abord, ça montre bien que ce qui compte, c'est l'incorporation. Ça, on ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas. Ça n'a rien à voir avec les stades, etc. Hein. Peut-être que la psychose, c'est ce problème de l'incorporation. Hein. L'autisme, on va dire. Hein. Et d'abord, ce qui peut porter la marque propre. La marque propre. Propre à chaque être parlant. À le ranger dans une suite de signifiants. Vous voyez, le corps a à voir avec le signifiant. A à voir avec la suite de signifiants. A à voir avec ce qui peut porter la marque, à le ranger dans une suite de signifiants. Patauge, là, c'est pas simple, hein. C'est plus que de la poésie, c'est de la poésie au sens où c'est les mots, la citation. C'est les mots qui dirigent. C'est pas celui qui écrit ou qui parle, qui utilise les mots pour bricoler du sens. C'est l'inverse, là. C'est les mots qui... On peut même pas dire qui dirige, c'est les mots. C'est même pas les mots au sens du sens habituel, hein. C'est cette ambiance signifiante, c'est cette puissance signifiante qui est en jeu dans une citation comme ça. Puisque ça joue au niveau de, ça joue beaucoup au niveau, non pas tellement du sens, mais justement de ce qui fait non-sens. Voilà. Il n'y a pas opposé le sens au non-sens. Le non-sens, hein, nonsense, comme va l'écrire Lacan, c'est pas du tout qu'il n'y a pas de sens. Pas du tout. C'est un monde particulier, celui de la signifiance. Bon, j'en ai déjà pas mal dit là. Et c'est là que se joue la question du corps. C'est là que se joue la question de la voix. C'est là que se joue la question de l'inconscient. Ou pas. Et c'est là que l'être parlant, évidemment, peut, dès qu'il est possible, peu s'en faut, qu'il ne défaille. C'est-à-dire qu'il fasse un lapsus. Hein. Quand un néologisme le parcourt, c'est-à-dire que quand quelque chose vient le traverser, peu s'en faut qu'il ne défaille. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il défaille ou ça veut dire qu'il... Peu s'en faut qu'il ne défaille. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Si, effectivement, ce qui ne cesse pas de s'écrire ou de se dire, cesse. Pas la pulsion de mort, cesse. Ce qu'on appelle, et là, quand on va reprendre comme étant la dimension de la contingence. Et ce qui ne cesse pas de se dire, ne cesse pas de nécessiter, c'est la nécessité. Et puis tout ça, ça recouvre quelque chose qui ne cesse pas de ne pas se dire. Et qui est impossible. Dès que je parle, il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors moi, évidemment, avec ma petite tête cartésienne, je pense que faut que j'arrive à parler, et dès que je parlote, hein, faut que j'arrive à parler de telle façon que je comprenne ce que je dis et que je sois compris. Ça, c'est la dimension, on va dire, du miroir strict. C'est-à-dire que je parle, je m'adresse selon un code qui est connu de celui à qui je m'adresse pour lui transmettre quelque chose. C'est ce que je fais là, bien sûr. Mais aussi de telle façon que il n'y a pas que ça. Et surtout qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que quelque chose cesse de se dire, voilà, de s'écrire, de se signifier. Et c'est pour autant que quelque chose cesse de signifier, qu'alors il est possible, comme je le disais la dernière fois, de faire ce saut qui est écrit dans le langage et qui s'appelle la métaphore. C'est-à-dire, le saut, c'est quoi? C'est le saut de la barre qui sépare le signifiant et le signifié, en linguiste, que Lacan appelle malinguisterie. Ce qui fait que les linguistes peuvent tout à fait critiquer Lacan. De toute façon, il n'est pas là. Il n'est pas dans la linguistique. Il n'est pas dans la linguistique habituelle. Il est ailleurs. Et il est où? Ben, il ne sait pas trop où il est, mais enfin, justement, il est ailleurs. Il est dans quelque chose qui concerne l'être parlant. Freud n'était pas comme ça. Freud n'était pas là, il ne faut pas tout demander à Freud, parce que Freud, il était déjà suffisamment isolé. Il avait besoin de se raccrocher à la connaissance, à la science. D'ailleurs, ce qu'a écrit Freud, on peut le connaître. Hein? C'est-à-dire, on peut le comprendre. Connaître, comprendre. Il y a toujours co, le cum, latin. On peut avec... On peut se mettre avec, quoi. Hein? Sachant que ça va faire des étincelles au bout d'un certain temps, mais c'est ça, le truc, hein, qui est en jeu. Bon. Alors, comment est-il possible, effectivement, de rendre compte un petit peu de tout ça? Parce que ce que j'avance, évidemment, c'est quelque chose qui va pas de soi, bien sûr. Et c'était un peu d'actualité il y a 30-40 ans, quoi. Hein. Je crois que c'était pas tellement d'actualité parce que c'était rabâché, hein, comme ça. Hein. maintenant que ça n'a plus tellement la cote, hein, parce que maintenant c'est autre chose, hein. Le langage, c'est plus tellement le... Maintenant, c'est... Il faut aller piquer dans le cerveau, on dit rien, hein, pour que les gens ne souffrent plus, etc., ça revient fort, ça. Puis après, il y aura des procès, parce que... Non. Ah, ils attendent que ça, hein. La justice, elle attend ça. Elle sert à ça, hein. Servir ceux qui veulent du sens. Le code, c'est ça, le code civil, pénal, c'est du sens. On va pouvoir le bricoler de différentes façons, bien sûr, il y aura des avocats. Mais, moi, quand je faisais mes études, j'étais assez étonné, je me disais, mais comment se fait-il que, ça n'a jamais vraiment travaillé ça, comment se fait-il que quand on a fait lettres classiques, on est avocat? C'était assez fréquent, c'était un truc, c'était pas spécialement les gens qui étaient bon match, ils étaient avocats. Ben voilà, faut savoir bricoler les mots, le sens des mots. Pas la racine, c'est fini. Il y avait peut-être des pédagogues un peu comme ça, mais maintenant, c'est dans ce théâtre, le palais, c'est autre chose. Bon. Alors, je reviens donc sur la question du signifiant, parce que derrière tout ça, il y a cette dimension de la signifiance, signifiant, et le fait que ça ne s'apprend pas, le fait de ne plus être aliéné dans le miroir, dans l'image, c'est-à-dire dans le sens, dans le code. C'est-à-dire de comprendre, hein, tout est basé là-dessus, l'anamnèse, tout ça, hein. J'ai rien contre, hein. Mais c'est très embarrassant après quand on a ça dans la tête, hein, parce qu'on comprend, justement. Et c'est ce qui est demandé par ceux qui dirigent, parce que c'est comme ça qu'est fait un dossier, hein, ça ne peut pas être fait autrement, hein. Bon. Eh bien, est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qui peut bien arriver à un abruti comme ça pour que un jour, ils se mettent à entendre quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver? Qu'est-ce qui peut bien lui tomber sur la tête, hein? Puisque, effectivement, ce qui compte, c'est que quelque chose défaille. Le sens défaille. Et j'insiste bien, c'est pas qu'il n'y ait pas de sens. C'est qu'il y a du non-sens, non-sens. C'est joint le non et le sens, c'est pas non, mais puis plus loin sens. Nonsense. Je connais pas bien, je connais pas suffisamment l'anglais pour savoir ce qu'il veut dire là, comme c'est bien l'anglais, quand il faisait référence à ça, mais enfin, de toute façon, on voit bien que c'est pas quelque chose de simple pour y arriver, de toute façon. Néanmoins, la façon que je vous propose pour aborder, évidemment, cette question de la signifiance, ce que j'ai appelé cette année la voie de l'inconscient, à écrire V-O-I-E ou V-O-I-X, comme on voudra, c'est pas tellement le problème. Moi, je l'ai appelé V-O-I-X, mais enfin bon, ça peut s'appeler autrement, hein. C'est, non pas de jouer avec les mots, ça, c'est encore du maquillage, hein. C'est je m'avance masqué, hein. Quand je monte sur la scène du monde, je m'avance masqué, comme l'écrivait Descartes en latin, larvatus prodeo, je m'avance masqué, larvatus prodeo. Il y en a beaucoup qui ont équivoqué, prodeo c'est devant Dieu, etc. Bon, mais pourquoi pas? Mais c'est je m'avance masqué, hein. Larvatus. Larvatus. C'est ambigu parce que, qu'est-ce que c'est que cette larve-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi, ça me fait penser, en vous parlant actuellement, ça me fait penser au baroque, hein. C'est-à-dire à cette espèce de ruissellement qu'on peut voir, hein, il suffit d'aller notamment en Italie, hein, dans les églises, hein, qu'on peut voir sur les sculptures, sur les peintures notamment, hein. Ce ruissellement de quelque chose, c'est du mouvement, c'est du ruissellement. quelque chose qui fait beau, qui fait plaisir, qui fait... Est-ce que c'est la conscience à voir avec ça? Faut pas aller trop vite. Hein, faut pas aller trop vite parce que, autant que je me souvienne, baroque, ça vient d'un mot qui veut dire quelque chose qui n'est pas lisse, qui n'est pas tout à fait lisse. Hein, c'est du portugais ou de l'espagnol, hein, quelque chose qui n'est pas tout à fait lisse. Hein. Donc, et la voie humaine, dans son parcours, est passée par là, par le biais d'opéra. C'est-à-dire que, on pourrait dire que l'opéra, tel que, c'est que je peux vous en parler, c'est-à-dire au niveau de la mise en scène, je ne connais rien, hein, je ne vais pas en parler de ce que je ne connais pas, mais au niveau de la voix, ça démarre, l'origine de l'opéra, c'est baroque. Les origines de l'opéra sont baroques. C'est pour dire. Alors, évidemment, une autre façon de considérer, c'est d'opposer les baroqueux et puis les autres. Hein. Pas ça. C'est pas ça qui est important. Nous, on tombe dans le binaire, hein, dans les tablettes. Hein. C'est plutôt de suivre le cheminement et le fait que il n'y a pas à dire que le baroque c'est pas bien, c'est bien, c'est pas le problème. C'est le fait que le baroque, à un moment, il va conduire à autre chose. Notamment, dans une langue particulière, où on peut jouer, jouir et dire oui à quelque chose qui est la signifiance. C'est l'italien. Bien sûr, l'accent tonique, c'est vrai, mais c'est l'italien. Bon, il ne suffit pas de dire que c'est une langue chantante. Ben oui, bien sûr, c'est évident. Hein, voilà. Et évidemment, ce n'est pas celle qui a été retenue. Hein. Ah oui, pour la mondialisation, ce n'est pas celle-là. Pas du tout. Bon. Eh bien, ce qui va faire, on pourrait dire que l'opéra italien auquel va s'opposer l'opéra français d'emblée, hein, ça apparaît notamment au 18e, hein, la querelle des bouffons. Hein, parce qu'il y avait des bouffons là en France, et on était dirigé par quelqu'un qui venait d'Italie. Donc, a fait venir un peu les troupes italiennes, ça n'a pas tellement plu. Hein. Bon, eh bien, l'opéra, effectivement, italien, c'est autre chose, alors surtout l'opéra italien du 19e, c'est autre chose, même si en France, il y a quand même quelques auteurs d'opéra qui sont intéressants, c'est autre chose, effectivement, que l'opéra, on peut le trouver ailleurs. C'est autre chose. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a à voir, c'est la question que je pose, avec le génie de la langue italienne? C'est-à-dire si elle recèle, on va dire comme dépôt. Et que la voix humaine, ça pourrait être ça l'opéra, hein, l'œuvre, ouvrage, œuvre, et que la voix humaine œuvre d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. D'une certaine manière. On appelle ça la technique italienne traditionnelle. Alors, ça s'est beaucoup développé effectivement en Italie, mais historiquement, ça ne s'est pas trouvé en Italie. Je ne sais plus où ça s'est trouvé, je chercherai, mais ça ne s'est pas trouvé en Italie. Mais ça s'est développé en Italie. Si ça s'est développé en Italie, ça a à voir avec la langue, bien sûr. La musique, a à voir avec la langue, ça n'a pas à voir avec le sens. Ce qu'on appelle la musique de chambre, ça n'a rien à voir avec le sens. Même s'il peut y avoir des leads, etc., où on chante quelque chose. Hein. Vous écoutez une symphonie de Beethoven, bien sûr, Freudel, la vieille, etc. Bien sûr, d'accord, ouais, c'est pas ça qu'ils font. C'est pas la joie, hein, non, d'accord. Il n'a la joie. Hein. Donc, ça peut être dans certains cas, ça peut, c'est ce que ça a donné, hein. C'est bien Wagner que, hein, ça a donné, ça peut être devenu quasiment un hymne national, hein, fasciste, hein, je veux dire, c'est pas, hein. Le sens, on fout du sens là-dessus, de façon particulière, hein. Bon. Eh bien. Et je vais m'arrêter quand même, on pourra un peu parler. Ce que je vous dis là, en fait, très souvent, j'ai bien un petit peu lâché les choses, hein. Ben, j'aurais jamais pu le dire si j'avais pas été pris par le fait qu'il y a quelque chose dans la voix, et donc que j'ai trouvé en travaillant, comme Lacan qui bricolait avec des morceaux de ficelle, qui bricolait ça pour faire des nœuds, hein, des nœuds, puis il disait, ben, faut les. Ce savoir-là de la signifiance, on y accède qu'en l'expérimentant. On ne peut pas l'apprendre. On ne peut pas l'apprendre comme on apprend, je crois, tout ce qu'on voudra, toutes les connaissances. C'est un savoir. Un savoir, ça ne s'apprend pas. Connaissance, oui, ça s'apprend. C'est un savoir, et ce qui est lié à l'expérimentation, c'est en ce sens-là qu'il y a. Il y a un petit rapprochement avec le scientifique. Hein. Le scientifique, ce qu'il attend, c'est pas de retrouver toujours les mêmes résultats. C'est qu'il peut, dans un coup, pof, tout flanche, quoi. Hein. Peu s'en faut qu'il ne défaille. Qu'elle ne défaille la connaissance. Mais c'est possible. Il y a un tout petit quelque chose qui rend les choses possibles. Eh bien, ce que la voix humaine peut transmettre, quand tout à coup, elle saute une barre, par exemple, quand il y a des intervalles assez conséquents. Hein. Kart, Sixte, etc. Tierce, c'est peut-être un peu léger. Hein. Quand justement, si c'est chanté de telle façon que le corps participe, parce que finalement, il y a deux trucs. Là, je rejoins Lacan. Je pense qu'il ne pensait pas à ça. Mais moi, je pense comme ça. Il y a ce qu'il appelle la jouissance phallique. Là, on ne sait pas du tout. Lié à ce truc-là qu'on appelle habituellement le pénis, hein. C'est-à-dire une certaine maîtrise du corps. C'est ce qui fait qu'il faut une certaine technique pour danser, pour jouer de ceci, pour ce qu'on voudra. Hein. Bon. Ça s'apprend par une technique, c'est-à-dire qu'on apprend un certain nombre de choses. Bon. Mais, ce qui est attendu, c'est qu'on accède à autre chose, à une autre jouissance. Et qu'on puisse dire oui en accédant à cette autre jouissance, qu'on puisse jouir. La jouissance, elle est là. Eh bien, c'est pour autant qu'on peut expérimenter ce que la voix, alors on va dire la voix lyrique, pourquoi pas, parce que c'est pas mal, hein, c'est pas mal la voix lyrique. Hein. La voix lyrique peut donner à entendre. Pas écouter, hein. J'ai bien fait la différence la dernière fois. Entendre, c'est pas écouter, hein. C'est même, quand on écoute, on n'entend rien. Hein, parce qu'on comprend, justement. Hein. Penser à toutes les cellules, les couilles, etc. Eh bien, entendre quelque chose qui est, voilà, ça, la marque propre, à le ranger dans une suite de signifiants. Entendre ça. Et alors, si la voix en question peut transmettre ça, il y a bien sûr du brillant dans la voix. À mon avis, c'est brillant. Il y a du brillant. Bon, c'est une chose, bien sûr. Et il faut bien que l'instrument qui est le larynx et tout ça fonctionne, hein, toute cette jouissance phallique. Et il faut respirer d'une certaine manière. Ça, c'est vrai. Bon, c'est pas suffisant. Mais, à ce moment-là, au niveau du brillant, pourquoi pas? Surtout dans les élus, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi les aigus? Ben, les aigus, ça veut dire qu'il y a une fréquence qui est grande, ça veut dire que ça vibre, ça veut dire que les oscillations sont très importantes. Enfin, hein, bon. Eh bien, quand il y a une fréquence qui est grande, comme ça, il est possible, écoutez Pavarotti, vous entendez ça, écoutez Domingo, vous entendez ça, il est possible d'entendre que la voix, elle n'est pas deux dimensions, que le corps, il n'est pas deux dimensions, il n'y a pas que la silhouette de quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la dimension du volume, qu'on appelle rapidement la troisième dimension, là. Hein. Enfin, vous, dès qu'on voit la troisième dimension, c'est que c'est plus de la troisième dimension. La troisième dimension, elle s'entend, quelque sorte. C'est ce qui les fait trois. Hein. Eh bien, il y a un relief dans la voix qui est possible. Vous allez entendre chez certains, Calas, c'est ça, enfin, chez lui. Je vais en citer Corélie, etc. Bon. Quelque chose qu'on entend, eh bien, c'est comme les tablettes qui se développent maintenant, ben, c'est presque fini. À l'opéra. Chez les chanteurs d'opéra, maintenant. Voilà, on en a. Je m'arrête là-dessus.